si on passe à la Grande-Bretagne, on voit que les types de sujets qui émergent, d'enjeux, ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit un premier sujet autour de la question des habitants, et notamment de leur capacité d'autogestion, d'auto-prise en charge, d'auto-organisation. C'est le premier aspect, là. Alors, je me suis demandé pourquoi, à vrai dire, et j'ai pensé à plusieurs choses, mais là encore, peut-être vous m'aiderez à creuser, et puis de toute façon, tout ça, encore une fois, hein, c'est tout à fait exploratoire. Ça m'a semblé finalement assez convergent avec ce climat politique anglais, qui s'est traduit notamment dans le programme récent de la Big Society, mais donc des racines historiques sont bien plus anciennes et remontent notamment au début du XXe siècle, sur cette idée finalement du développement de la participation pour favoriser une forme d'empowerment, mais dans une perspective néolibérale de responsabilisation, dont les racines seraient peut-être aussi à trouver dans ce qu'on appelle le self-help, qui existe dès le début du XXe siècle. L'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire non pas surtout de créer des formes d'assistanat, mais d'aider en aidant les habitants à se prendre en charge. Voilà, c'est une hypothèse. Un deuxième aspect qui est très intéressant et qu'on voit apparaître en Angleterre, c'est l'idée que ces formes d'habitat collaboratif permettraient de favoriser ce qu'on appelle l'affordability en anglais, c'est-à-dire l'accessibilité, qu'on voit émerger, vous le verrez notamment tout à l'heure dans la prochaine slide, à travers des réflexions sur le community land trust, c'est-à-dire c'est des types de dispositifs qui permettent de bloquer la spéculation foncière et donc de maintenir en fait des prix bas dans l'accès au logement. Troisième aspect, la question de la collaboration, c'est-à-dire que là aussi en Angleterre, finalement, la question du lien avec les partenaires professionnels institutionnels est également toujours très présente. Enfin, émerge très fortement la question de l'environnement, donc vous avez vu qu'elle était finalement extrêmement marginale dans les travaux français, à part sur la question de cet habitat alternatif. Alors, là encore, j'ai eu du mal, enfin, j'ai essayé de faire des familles, c'était plus difficile à vrai dire, je ne suis pas complètement sûre de moi, c'est un premier essai. Il y a bien, il me semble, une première famille autour de ce qu'on pourrait appeler le co-housing, avec cette dimension très forte, cette attention très forte, cette importance très forte donnée au pouvoir des habitants, avec un accent sur la dimension environnementale et où le lien où la question de la collaboration avec les acteurs institutionnels et professionnels est présente, parce que ce sont aussi ces formes d'habitat qui se font avec l'aide donc des pouvoirs publics. Hein, la question de l'accès au foncier pose le même problème qu'en France, dans le fond. Donc se fait finalement là aussi avec et ou dans l'horizon des pouvoirs publics. Le deuxième point, effectivement, a trait aux expériences qui relèvent de la régulation du foncier pour permettre une régulation des prix et néanmoins avec là aussi une présence des habitants. Ce qui est quand même particulier, en France par exemple, on voit bien hein, des organismes fonciers solidaires qui émergent maintenant, mais c'est tout à fait récent. En Angleterre, c'est beaucoup plus ancien. C'est aussi très largement porté par la tradition américaine. Mais surtout, je pense que ce qui fait cet accent porté au foncier est là aussi très certainement historique. Hein, la question de la maîtrise du foncier n'a pas le même sens en Angleterre, déjà parce que le foncier appartient à la couronne, ce qui n'est pas le cas en France, hein, où le foncier est privé, je veux dire très, très clairement. On voit bien que dans toutes les pratiques d'urbanisme anglaises depuis le XXe siècle, il y a une capacité de maîtrise du foncier qui n'est pas du tout la même en Angleterre qu'en France, précisément pour cette raison. Et c'est peut-être une des raisons hein, qui explique l'importance de ces réflexions sur la maîtrise du foncier. Enfin, il y a donc cette troisième famille qui me semble émerger, qui est sans doute à creuser, autour de cette idée du faire soi-même, dans la lignée du self-help, avec effectivement énormément de réflexions. Et là, le chiffre est certainement sous-estimé, parce qu'il ne prend pas en compte les dernières publications de 2017-2018. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travaux, en fait, sur ces questions, sur le self-building, c'est-à-dire l'autoconstruction, qui est quand même relativement mineure en France, par exemple, aujourd'hui. Et qui, à mon avis, effectivement, vient donc de cette tradition de l'empowerment par le bas, mais dans une perspective de responsabilisation, et d'éviter finalement le trop d'État ou le trop d'assistance publique. Ce qu'on voit, par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette question des alternatives radicales, qui était quand même très présente en France, elle n'apparaît pas du tout en Angleterre. Je me suis demandé si c'était un angle mort. C'est possible. J'ai vu quelques articles parus de Chatterton, par exemple, dans la lignée de la géographie radicale, mais il n'y en a pas beaucoup. Je me suis demandé si c'était tout simplement pas lié au fait, aux spécificités du pays, c'est-à-dire que l'Angleterre, c'est quand même un pays très dense. À mon avis, ça laisse peu de marge, peu d'espace aux marges d'expérimentation, c'est une hypothèse. Hein. Là où en France, on voit au contraire que ces expériences alternatives un peu radicales, elles ont beaucoup lieu dans le rural, qui finalement offre un laboratoire d'expérimentation du fait que la pression foncière est beaucoup moins forte. Alors, c'est une piste, hein. Il y en a peut-être d'autres, entre autres, peut-être que ça se joue aussi dans le rapport au pouvoir, hein, comme si en France il fallait être ou avec ou contre, même si on sait que tout ça c'est un registre qui a été longtemps pratiqué. Je ne sais pas, là il y aurait sans doute à creuser là-dessus. Dernier pays sur lequel il y a moins de choses, en Allemagne, qu'est-ce qu'on voit émerger ? La question des liens sociaux, de la dimension collective. Finalement dans une manière de poser l'enjeu un peu comme il l'est en France, sans que là je ne sois pas tout à fait en capacité de donner sens à ça. Anne, j'en appellerai à ton analyse. Je me suis demandé si là aussi c'était pas en je me suis demandé si c'était pas en lien avec là quand même le déclin des prestations sociales avec Artfir, etc., qui ont quand même très largement donné un coup de tranchant, coupé effectivement le welfare, enfin très très fortement, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, et où finalement l'habitat participatif, enfin qui s'appelle pas participatif, mais enfin collaboratif, apparaîtrait comme un moyen de compenser des formes d'entraide, des formes de solidarité locale, quotidienne. Le deuxième aspect qui sort, ça ne sera pas étonné non plus, c'est évidemment la question du vieillissement, extrêmement fortement, comme si ces formes d'habitat permettaient de favoriser l'avancée en âge, de pallier les difficultés de mobilité, de dépendance. L'Allemagne est un des pays qui vieillit le plus en Europe. Hein. Voilà. Et le dernier aspect qui émerge, la question des politiques publiques. Alors sans doute parce que il me semble qu'en Allemagne la relation plutôt l'intégration de ces réflexions dans les politiques publiques est beaucoup plus aisée qu'en France. J'ai l'impression, tu me diras ce que t'en penses, Anne, mais ouais, bon. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe effectivement, dans le quartier Vauban, à Fribourg, à Berlin, il y a des partenariats quand même qui sont assez inédits, qui n'existent pas de la même manière en France. Bon, je ne sais pas. Voilà, l'Allemagne, c'est plus flou pour moi, pour l'instant. De la même façon, c'était plus difficile de construire des familles, parce que justement, j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était très difficile d'établir des frontières. J'ai eu plutôt l'impression d'une sorte d'un continuum de pratiques qui allait depuis le co-housing à l'appartement partagé, dans un mode très finalement très fréquent. Vous connaissez tous la pratique du WG allemand, c'est-à-dire Wohnungsgemeinschaft, c'est-à-dire de la colocation. Hein, c'est le pays en Europe où il y a le plus de colocation. Et finalement, il y a cette pratique quand même très courante du fait de partager un espace. Et donc, c'est sans doute aussi ce qui explique la multitude de termes qu'on voit. C'est sans doute pour l'Allemagne que j'en ai trouvé le plus. Et encore, j'ai mis les plus présents ici, hein, mais il y en a une quinzaine de termes qui déclinent en fait cette manière de partager un lieu, que ce soit pour les jeunes, mais pour les familles, pour les vieux, enfin toutes les catégories sociales et générationnelles sont concernées. Et on voit quand même un groupe très fort autour de la question des seniors qui est vraiment un sujet qui truste la réflexion. Alors il y a peut-être un biais du fait qu'Anne a beaucoup publié, du coup ça fait grossir maintenant de papier dans la base de données sur la question d'un vieux, c'est un peu une boutade quand même. Alors, quelques éléments de conclusion, tout ça pour vous dire que c'est quand même un travail en cours. En fait, j'ai fait ça hier, hein, assez vite. Et puis surtout, c'est une entrée, hein, à partir d'une base de données académique. Donc, bien évidemment, il faudrait davantage confronter aux pratiques. J'espère bien le faire dans les mois à venir. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que le collaborative housing, Il y a des convergences très fortes entre les divers pays européens qui sont liées à des influences communes, des emprunts, des circulations. Ça aussi, il y aurait toute une histoire à faire de la circulation, des concepts, des pratiques, des porteurs d'initiatives aussi sur ces sujets. Mais il y a aussi, bien sûr, des tendances structurelles extrêmement lourdes, notamment liées au secteur de l'habitat, qui viennent finalement émerger ce sujet et qui lui donnent corps aujourd'hui. Je l'ai évoqué tout à l'heure, et notamment cette évolution du secteur autant social que privé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un sujet, c'est une question qui a des déclinaisons extrêmement contextuelles. Il y a des types d'initiatives extrêmement variés, des usages et des enjeux de la participation très très différents, et à ces opérations est accordé un sens sociopolitique aussi extrêmement variable. Alors, j'aimerais bien, à l'avenir, poursuivre ce travail de comparaison, le systématiser, le retravailler. Il y aurait sans doute des manières de grouper des mots-clés plus efficacement pour faire ressortir des lignes de force. Bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment tout à fait exploratoire. J'ai fini la base de données dimanche, à vrai dire. Donc, je pense qu'une des pistes qui serait intéressante serait justement d'analyser ces familles à travers le prisme des systèmes de logement propres à chacun des pays, avec un recul historique, puisqu'on voit bien que tout ça est nourri quand même des racines historiques, notamment en termes de politique, de constitution du secteur de l'habitat. Et on pourrait tout à fait croiser différents niveaux d'analyse, donc le niveau national, qui nous rapporterait des éléments sur l'état du marché, et sur ces modes de régulation au niveau du welfare, donc quelles sont les politiques publiques d'aide en faveur du logement social en particulier, mais pas seulement, et de voir ensuite comment elles se déclinent au niveau des politiques régionales et locales, parce qu'on voit bien dans beaucoup de pays fédéraux où le régionalisme ou tout simplement les politiques d'habitat se décident au niveau local. C'est finalement à ce niveau que les modes de régulation ont plus d'effet. Je pense en Allemagne, mais c'est le cas aussi en Autriche par exemple. Et puis il y a bien sûr un autre facteur qui serait certainement à prendre en ligne de compte, c'est la manière dont ces questions sont saisies localement, dans un terreau, dans une histoire, par la société civile, par les associations, le tissu local. Et donc on pourrait, ce serait génial, de systématiser un peu ça et de donner aussi des éléments d'interprétation un peu plus construits. Voilà, merci beaucoup à vous maintenant. C'est collaboratif.
Techniques, parce qu'on va essayer de consacrer les débats à la fin, si vous voulez bien, sauf s'il y a un intervenant qui doit partir s'éclipser avant.
J'ai une question. Je voudrais parler quand on fait un steak. Juste quand on parle de welfare state, c'est quoi votre définition?
C'est entre la traduction anglaise de ce qu'on appelle en France l'état social, l'état providence, l'état assurantiel, il y a différents termes, selon qu'on prend Donzelot, Castel, par exemple. Et donc c'est l'ensemble des systèmes de régulation sociale mis en place par les États, bien souvent après la Seconde Guerre mondiale, mais parfois pendant l'entre-deux-guerres, et qui visent justement à compenser les inégalités liées au marché, l'inégalité sociale. Le tout le système d'aide qui concerne les prestations sociales, le logement par exemple.
Donc, du coup, on est quand même d'accord que le welfare state, ça change en fonction des contextes.
Absolument, tout à fait. Oui, bien sûr, absolument. Et notamment, les politiques publiques de l'habitat n'ont pas toujours grand-chose à voir pour chacun de ces pays, notamment concernant le logement social.
Juste un petit point de précision pour. Nous avons rejoint en deuxième partie de journée, puisque vous avez fait un lancement. Cette session, c'est aussi pour préciser les points de vue d'où l'on parle, donc est coportée à ACDD et le réalité aussi le séminaire de master, une partie du public, sont des étudiants de master. Donc, effectivement, merci d'être précis sur la notion de l'objectif.
Très bien. J'espère que c'était clair.
Sur le CLT aussi.
Non, mais après, il y aura peut-être un débat. Voilà. Je pense qu'on entendra le débat après sur effectivement comparaison et telle raison, parce que c'est toute la difficulté, mais je crois que tu le dis assez bien dans ta conclusion, c'est-à-dire qu'à un moment, ce travail-là qui est assez inédit, jusqu'alors, donc qui est super intéressant, il renvoie effectivement chacun à partir de nos propres terrains, nos expertises des politiques publiques, au contexte des politiques publiques, et très clairement, en tout cas sur les politiques de l'habitat, et je pense que ça paraît genre. pas à la française, mais voilà, ce sont des politiques très très d'emprise dans les modalités même de l'action publique. Et donc du coup, même si on peut avoir effectivement une vision, je pense qu'elle est intéressante, au moins de la discussion de croisée, à un moment, dans les éléments de la comparaison, on va venir buter, je pense, assez vite sur l'intégration des modèles, des modalités de production de politique de l'habitat dans le modèle de l'État. Et là, du coup, on a des choses qui deviennent très difficilement. On revoit finalement quelque part l'exception française, peut-être à la lueur européenne, ou en tout cas sur le territoire. On ne sait plus comment qualifier l'Angleterre, mais bon, ils n'ont pas encore divorcé, donc on va les laisser dans le monde.
Comme
l'anglais, Nizuka. Ouais.
Non, mais c'est pour ça qu'on va faire des débats. Il me semble qu'en Allemagne, il y a des choses qui sont du domaine de l'aide à la dépendance, la prise en charge de la dépendance, c'est tout, ça fait monter une personne. Et puis en France, le mouvement des, pas forcément seulement des écovillages, mais des initiatives type colibri, des oasis, voilà. Est-ce qu'elles sont, elles ont été dans le spectre ou hors champ?
Alors, dès lors qu'elle répondait à ces fameux critères... Alors, le comité de lecture, c'est l'ensemble des... C'est un groupe de lecteurs affiliés à une revue qui définit la qualité d'une revue, d'un article et sa capacité à être publié dans une revue scientifique. C'est ce qui garantit la scientificité d'un article. Bon, c'est tout à fait discutable, bien sûr, mais il se trouve que le monde de la recherche fonctionne comme ça. Alors, après, oui, pour répondre à cette question sur, effectivement, sur des colibris, il se trouve qu'en France, oui, il y a des articles, notamment de Geneviève Pruvot, mais pas seulement, de Béatrice Messinier, qui rendent compte de ce type de pratique. Et on le voit apparaître dans le corpus français, on le voit pas du tout apparaître, très peu, très marginalement dans le corpus anglais, et pas du tout dans le corpus allemand. Pour moi, c'est une vraie interrogation, et je me suis demandé si là, c'était pas justement un biais de notre protocole de recherche, ou si tout simplement, il n'y a pas de travaux. Mais en même temps, c'est lié, comme je vous disais, au champ de recherche en Allemagne, c'est-à-dire que l'habitat n'est pas vraiment un champ de recherche jusqu'à présent. Donc sans doute, ça s'explique pour cette simple raison. Donc évidemment, les limites de ce travail, ils sont liés à l'angle académique par lequel on entre dedans. Voilà, ça fournit une porte d'entrée, elle n'est pas omnisciente, quoi.
En Allemagne, il y a énormément d'articles de niveau scientifique faits par des gens qui sont dans des réseaux, qui utilisent les mêmes méthodes, mais qui ne vont pas être comptés comme des revues scientifiques parce qu'ils ont publié dans des choses divers et variées, sauf s'ils publient en anglais. Donc, à mon avis, tu passes à côté de plein d'articles allemands en allemand. De qualité scientifique qui ne sont pas réputées, qui ne sont pas vulgaires. Je ne sais pas si vous dites plein de
trucs. C'est vrai, mais donc pour le coup, dans le corpus français aussi, parce qu'on a retiré tous les articles de livres, par exemple.
Tu retires dans tous les pays, là, en Allemagne, tu
retires tout. Ouais. Je me dis bien.
Je me dis bien. Dernière question. Oui,
bonjour. Juste avoir une précision, vous venez de dire que dans le contexte britannique, il n'y a pas de travaux académiques sur des projets de type ce qu'il y a en France et Colibri, Royaume-Uni et en transition. Vous n'avez pas trouvé la partie.
En tout cas, sur des villes en transition peut-être, mais sur l'habitat collaboratif, très peu, en tout cas sur un mode un peu radical, voilà, c'est ça dont je voulais parler. Mais oui, il y en a quelques-uns par Chatterton, mais très très peu, il y en a moins de 5, quoi, par exemple. Voilà. Tiens, avec ou la dimension, si j'appelle, enfin, on appelait les Radical Living Project, c'était un peu le terme, ceux où la dimension politique, environnementale est extrêmement forte et très revendiquée, et qui se positionnait en rupture avec les modes de vie mainstream. Et ça, effectivement, il y a très peu de publications académiques sur ce type d'expérience en Angleterre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux sur la ville en transition, qui, à mon avis, a autre chose.
Juste une idée que je vais ajouter, c'est ce qui peut être intéressant pour compléter la base de données, c'est au vu du cas de l'Allemagne, c'est d'ajouter peut-être un deuxième niveau, une deuxième couche dans la base de données de travaux qui sont assimilés de qualité académique avec d'autres biais évalués, mais qui permettent de compléter le premier biais académique. Et ma surprise, c'est que collaborative d'Anzil, la notion collaborative est peu politique. Et par contre, si on utilise cette entrée-là, il y a plein de choses sur les plans de transition en Angleterre. Et je veux dire, justement, c'est une chose que vous avez évoquée par ailleurs, une hypothèse que vous commencez à faire sur le fait qu'on a oublié une espèce de tradition qui vient de loin, qui aujourd'hui est néolibérale et qui fait qu'en fait les gens ne sont pas engagés. Alors, je ne l'ai pas dit exactement comme ça, mais peut-être que l'équivalent de ce qui en France est radical, théorique, utopique et idéologique, en fait, il y a l'équivalent au Royaume-Uni, bien sûr, mais par contre, ça ne sera pas formulé nécessairement comme radical, parce que déjà le terme militant en anglais est très négatif, beaucoup plus qu'ici, et le terme activiste peut recouper des types d'actions style vie en transition. Ou alors des choses plus engagées. Donc là, je demande. D'abord, que la collaborative voisine, c'est un terme générique. Et là, normalement, en anglais, il y aura plein de choses. Et le terme radical, par contre, peut exclure. Mais si c'est ça l'idée, ça exclut plein de potentiellement d'expériences documentées qui correspondent quand même à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un terme, juste pour être concret, gentle activism, c'est-à-dire l'activisme doux, ou des choses qui relèvent de pratiques liées aux vies en transition, ou tout ce qui est lié à l'artisanat, c'est transformer, donc c'est une dimension politique forte et radicale, par le faire de manière douce. Donc attention aux catégories, parce que je pense que la sémantique d'un pays à un autre est très différente pour les mêmes pratiques.
Juste une petite réponse, parce que je crois qu'on a là des éléments de débat, en fait, du coup, ce serait intéressant la limite, de garder cette question-là pour la fin, après les
éléments. Alors, comment répondre peut-être la manière la plus simple quand on a défini nos enjeux, on a essayé d'être au plus près des articles et des pratiques décrites dans les articles. Donc, si on avait vu quelque chose sur l'activisme doux, on aurait gardé ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je dis juste que il faudrait regarder en détail ma liste des 40 enjeux. Il y a certainement des choses qui correspondent à ce dont vous parlez. Simplement, si ce n'est pas ce que l'on a classé sous la notion de mode de vie radical, voilà, qui effectivement se traduisait dans une affirmation de la rupture. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est le registre des expériences que vous qualifiez, mais il faudrait regarder en détail les articles concernés. Ouais, voilà.
Francesca, je te dis que c'est un canin.